Chapitre 11. Des idées d'importance. Sans même regarder devant lui, Rand franchit le portail et entra dans une grande pièce obscure. L'effort de maintenir son tissage, un combat contre le Saïdin, lui coupait les jambes. Il aurait aimé se plier en deux et vomir jusqu'à ses entrailles. Non sans mal, il réussit à ne pas céder à la tentation. Un peu de lumière filtrant des volets disjoints d'une petite fenêtre placée très en hauteur, Rand réussit à voir, puisque le pouvoir amplifiait tous ses sens. Des meubles et d'autres gros objets couverts d'une housse encombraient presque tout l'espace. Le reste étant occupé par des coffres de toutes les tailles, des tonneaux, des caisses de vaisselle et des montagnes de bibelots. Pour circuler, il restait d'étroits passages à peine assez larges pour une personne. Rand était certain de ne pas tomber sur des domestiques. Au dernier étage du palais royal, on trouvait plusieurs entrepôts de ce genre, l'équivalent dans une ferme du grenier où personne ne va jamais. De toute façon, un taverne devinait ce genre de choses. Une chance, parce que s'il y avait eu quelqu'un... En s'ouvrant, le portail avait coupé le coin d'un coffre de cuir craquelé et laissé une balafre sur toute la longueur d'une table en marqueterie, sur laquelle s'entassaient des vases et des coffrets en bois. 100 ou 200 ans plus tôt, une reine d'Andorre avait peut-être dîné à cette table.
« Un siècle ou deux !»
ricana Loustérine dans la tête de Rand.
« Ça en fait du temps, pas vrai? Pour l'amour de la lumière, sortons d'ici. C'est la fosse de la perdition. »
La voix mourut quand le spectre se rencogna dans les ombres de l'esprit de son hôte. Pour une fois, Rand avait de bonnes raisons d'écouter Loustérine. D'un geste, il fit signe à Mine de le rejoindre. Aussitôt qu'elle eut quitté la clairière où elle attendait qu'il l'appelle, son compagnon referma le portail, qui devint un trait lumineux vertical avant de disparaître. La lumière en soi louée, la nausée se volatilisa en même temps. Si sa tête tournait encore un peu, Rand n'avait plus le sentiment qu'il allait vomir ou s'écrouler, voire les deux en même temps. La sensation d'être en contact avec de la vermine demeura, puisque la souillure du ténébreux restait lié au tissage que Rand avait noué autour de sa personne. Faisant passer d'une épaule à l'autre la sangle de son sac de cuir, il profita du mouvement pour s'essuyer discrètement le front avec sa manche. Un réflexe. Même s'il ne s'inquiétait pas que Mine puisse remarquer un détail de ce genre. Les bottines bleues de la jeune femme soulevèrent une colonne de poussière dès ses premiers pas. Sortant de sa veste un mouchoir de dentelle, elle s'en servit pour étouffer une série d'éternuements. Rand regretta qu'elle ait refusé de rester en robe. Des fleurs blanches ornaient les manches et les revers de sa veste bleu clair, et son pantalon, également bleu clair, moulait parfaitement ses jambes. Grâce à la paire de gants d'équitation glissée à sa ceinture, en tissu bleu brillant brodé de fil jaune, et à son manteau, à l'ourlet rehaussé de motifs jaunes et au col tenu par une broche en forme de rose, elle donnait l'impression d'avoir recouru à un moyen de transport des plus classiques. N'empêche, elle attirerait tous les regards. Rand avait opté pour une tenue de laine ocre que n'importe quel ouvrier aurait portée. Ces derniers temps, sa présence n'était nulle part passée inaperçue. Aujourd'hui, il n'entendait pas seulement se volatiliser avant que quiconque se soit avisé qu'il était là. L'idée était que personne, à part quelques individus triés sur le volet, ne sache qu'il était venu.
« Pourquoi me souris-tu en te tripotant l'oreille comme un idiot du village ?»
demanda Mine en remettant le mouchoir dans sa manche. De la méfiance passa dans les magnifiques yeux de la jeune femme.
« Je me disais juste que tu es très belle, » répondit Rand.
La stricte vérité, et il ne pouvait pas la regarder sans le penser, et sans regretter d'être trop faible pour ne pas l'avoir laissée derrière lui en sécurité. Elle inspira à fond et éternua avant d'avoir pu plaquer une main devant sa bouche. Puis elle foudroya Rand du regard, comme si c'était sa faute.
« Pour toi, j'ai abandonné mon cheval. Encore pour toi, j'ai frisé mes cheveux. Toujours pour toi, j'ai renoncé à ma vie. Mais tu n'auras pas ma veste et mon pantalon. De plus... « Ici, personne ne m'a jamais vu en robe plus longtemps que les 5 minutes requises pour me changer. Et pour que ton plan marche, tu le sais, il faut qu'on me reconnaisse. Avec le visage que tu affiches, ça ne risque pas de t'arriver. »
D'instinct, Rand passa une main sur sa joue, puis sur son menton. Son bon vieux visage. Mais ce n'était pas ce que Mine voyait. Quiconque le regarderait croirait avoir en face de lui un homme plus petit et plus vieux que Rand Altor. Un type aux cheveux noirs raides, aux yeux foncés ternes et au gros nez affublé d'une verrue. Pour dissiper le masque de miroir, il faudrait le toucher. Sinon, même un achaman n'y verrait que du feu, à cause de tissage inversé. Cela dit, s'il y avait un achaman au palais, ça ne serait pas bon signe pour la progression de ses plans. Cette visite ne devait pas se terminer par un massacre. Quoi qu'il en soit, Min avait raison. Avec cette tête, Rand n'aurait pas eu le droit d'entrer au palais sans escorte. « Tant que nous pouvons en finir vite et repartir après, » soupira-t-il. « Avant que quelqu'un se dise que tu es là, je peux tout à fait y être aussi. »«
Rand, »
souffla Min. Posant une main sur la poitrine de son compagnon, elle le regarda, l'air grave.
« Rand, il faut que tu voies Elaine. Et Avienda, j'imagine. Tu sais qu'elle est probablement ici. Si tu... »
Rand secoua la tête et le regretta aussitôt. Les vertiges n'étaient pas vraiment finis.
« Non, »
dit-il simplement. Quoi que dise Min, il ne parvenait pas à croire qu'Elaine et Avienda l'aimaient toutes les deux. Ni que cette stupéfiante réalité, si c'en était une, ne la dérangeait pas. Quand même, les femmes ne pouvaient pas être étranges à ce point. Elaine et Avienda avaient des raisons de le détester, pas de l'aimer. Et la fille héritière, au moins, avait été claire sur ce point. Pour ne rien arranger, il était amoureux des deux femmes, et de Min aussi, bien entendu. Contraint d'être dur comme l'acier, il risquait de se briser, s'il devait les affronter toutes les trois en même temps.
« Dès que nous aurons trouvé Nineveh et Matt, nous filerons à la vitesse du vent. »
Min voulut parler, mais il ne lui en laissa pas le loisir.
« Ne discutaille pas, Min. Nous n'avons pas de temps à perdre. »
La tête inclinée, la jeune femme eut un sourire malicieux.
« Moi, discutailler? Ne fais-je pas toujours ce que tu me dis ?»
Comme si un mensonge ne suffisait pas, la jeune femme ajouta.
« Je voulais juste souligner une chose. Si tu es si pressé, pourquoi moisissons-nous dans cette remise poussiéreuse ?»
Pour étayer son propos, Min eut une nouvelle quinte d'éternuement. Étant la moins susceptible d'éveiller la curiosité, même dans sa tenue, elle fut la première à jeter un coup d'œil dehors. Apparemment, la remise n'était pas si abandonnée que ça, puisque les gonds de la porte ne grincèrent presque pas. Après un coup d'œil à droite et à gauche, Min sortit et fit signe à Rand de le suivre. Taveraine ou non, il fut soulagé de découvrir un couloir vide. Le plus timoré des domestiques se serait étonné de voir sortir deux personnes d'une remise. Cela dit, tôt ou tard, Rand et Min rencontreraient des gens. En Andorre, le palais ne grouillait pas de domestiques comme celui de Kérienne ou de Théar, mais il y en avait quand même des centaines. En chemin, Rand se força à béer d'admiration devant les tapisseries, les meubles polis et les panneaux muraux sculptés. À cet étage, rien n'était aussi somptueux que plus bas. Mais un humble travailleur en aurait déjà eu plein les mirettes.
« Il faut gagner un étage inférieur aussi vite que possible, »
souffla Rand. S'il n'y avait toujours personne en vue, 10 fâcheux pouvaient les attendre dans le couloir suivant.
« Surtout n'oublie pas, au premier domestique que nous croiserons, tu devras demander où sont Nineveh et Matt. Ne développe pas, sauf si c'est absolument nécessaire. Merci de me rafraîchir la mémoire. Il me semblait bien avoir oublié quelque chose, mais impossible de mettre le doigt dessus. »
Min eut un sourire crispé et marmonna quelques aménités entre ses dents. Rand soupira. C'était trop important pour qu'elle joue ainsi, mais elle le ferait s'il ne l'en empêchait pas. Bien entendu, elle ne voyait pas les choses comme ça, parce que sa notion de l'importance divergeait souvent de celle de son compagnon. Radicalement, parfois. Du coup, il allait devoir la surveiller de près.
« Mais c'est maîtresse Farchaud !»
lança une voix féminine derrière eux.
« C'est bien vous, n'est-ce pas ?»
Quand Rand se retourna, son sac lui percuta douloureusement le flanc. À part Elaine et Avienda, la femme rondelette aux cheveux gris qui venait de parler était la dernière personne qu'il aurait voulu rencontrer. Mais pourquoi portait-elle une tunique rouge avec le lion blanc brodé sur la poitrine? Comme tout bon ouvrier conscient de sa place dans le monde, Rand évita de regarder la femme avec insistance.
« Maîtresse Harfort ? »
s'exclama Min, rayonnante.
« Oui, c'est bien moi. Et vous êtes la femme que je cherchais. J'ai bien peur d'être perdue. Pourriez-vous me dire où trouver Nineveh Almehara ? Et Matt Cotton ? L'homme qui m'accompagne a une livraison pour Nineveh. »
Considérant Rand, la première servante fronça les sourcils, puis se concentra de nouveau sur Min, dont la tenue parut la surprendre, peut-être parce qu'elle était couverte de poussière, et garda ses remarques pour elle.
« Matt Cotton ? Je crains de ne pas le connaître. C'est un des nouveaux domestiques ? Ou une recrue de la garde ? Quant à Nineveh Sedag, elle est très occupée. À mon avis, elle sera ravie que je réceptionne la livraison
et la dépose dans sa chambre.
Rand sursauta. Ninevé Sedai? Pourquoi les vrais Aes Sedai laissaient-elles l'ancienne sage-dame jouer encore à ce petit jeu? Et Matt n'était pas au palais? Il ne s'y était même jamais montré? Des couleurs tourbillonnèrent dans la tête de Rand, qui parvint presque à en faire une image. Mais elles se volatilisèrent, et il tituba. Maîtresse Arfor le foudroya du regard, comme si elle pensait avoir affaire à un poivreau. Mine fronça les sourcils, inquiète, mais elle se ressaisit très vite.
« Je pense que Ninevé Sedai voudra voir le livreur. Vous pouvez lui montrer sa chambre, maîtresse Arfor? Avant de partir, j'ai une autre chose à faire. Nouli, tiens-toi bien et fais ce qu'on te dit. Ne vous inquiétez pas, maîtresse Arfor, c'est un brave homme. »
Rand ouvrit la bouche, mais Mine fila avant qu'il ait eu le temps de dire un mot. Volant comme le vent, elle allait tenter de trouver Elaine. Bref, elle risquait de tout saboter.
« Tes plans échouent parce que tu veux vivre, pauvre fou !»
marmonna Loustérine.
« Regarde ta mort en face et cesse de me tourmenter !»
Rand réduisit le spectre au silence dans un coin reculé de sa tête. Nouli ? Où Mine avait-elle trouvé ce nom ridicule ? Maîtresse Arfor regarda Mine disparaître à l'intersection, puis elle tira sur sa tunique qui n'avait pourtant pas un pli. Ensuite, elle focalisa sa désapprobation sur Rand. Même avec le tissage qui le camouflait, elle voyait un homme beaucoup plus grand qu'elle. Mais les détails de ce genre ne l'arrêtaient pas.
« Ta tête ne me revient pas, Nouli !»
dit-elle, l'air pas commode.
« Alors, comporte-toi bien. Très bien, même, si tu veux t'en sortir entier. »
La sangle du sac tenue d'une seule main, Rand chassa une mèche de son front.
« Oui, maîtresse, »
marmonna-t-il. Réhen Arfor était bien fichu de reconnaître sa voix s'il parlait trop. Par prudence, Mine aurait dû se charger des conversations jusqu'à ce qu'ils aient retrouvé Ninevé et Matt. Si elle revenait avec Elaine, que devrait-il faire? Et si Avienda déboulait aussi?
« Je m'excuse, maîtresse, mais nous devons nous hâter. Je dois voir Ninevé aussi vite que possible. »
Rand tapota son sac.
« C'est très important pour elle. »
S'il en avait terminé quand Mine reviendrait, Rand pourrait peut-être filer avec elle avant de devoir affronter les deux autres femmes.
« Si Ninevé Sedai pensait que c'est urgent, »
dit la première servante, insistant lourdement sur le titre qu'il avait oublié.
« Elle m'aurait averti de ton arrivée. À présent, suis-moi et garde tes judicieux avis pour toi. »
Sans attendre de réponse, la première servante se mit en chemin, d'une démarche quasi régalienne. Certaine que Nouli n'avait pas le choix, elle ne se retourna pas pour voir s'il la suivait. Réhen Arfor, se souvint Rand, avait l'habitude d'être obéi. La rattrapant, il marcha quelques secondes à ses côtés, récolta un regard assassin et se laissa très légèrement distancer, en marmonnant des excuses. Normalement jamais forcé à marcher derrière qui que ce soit, Rand sentit la moutarde lui monter au nez. Pour ne rien arranger, les vertiges et les relents de la souillure continuaient à l'accabler. Ces derniers temps, sauf quand Mine était à ses côtés, il se montrait irritable et coléreux. Des domestiques apparurent dans le couloir. Chargés de fardeaux ou non, ils couraient dans tous les sens, affolés. À l'évidence, le couloir désert, quand Mine et lui étaient sortis de la remise, était une exception. La chance des tavernes. À l'étage inférieur, après la descente d'un escalier de service étroit, la fréquentation augmenta encore. Des domestiques, mais pas seulement. Rand remarqua plusieurs domanies à la peau cuivrée, des kyrieniennes au teint pâle, et des femmes à la complexion olivâtre qui n'étaient sûrement pas des andoriennes. Les voir l'incita à sourire sous cape. Aucune n'avait un visage intemporel, et beaucoup arboraient des rides qui n'auraient jamais eu leur place sur le visage d'une Aes Sedai. Pourtant, Rand eut souvent la chair de poule en croisant ces inconnues. Ces femmes canalisaient, ou au moins étaient unies au Saïdar. En passant devant certaines portes, Rand eut également des picotements caractéristiques. Derrière ses battants, d'autres femmes canalisaient.
« Maîtresse, »
demanda-t-il avec la voix rauque de Nouli.
« Je m'excuse de mon audace, mais combien d'Aes Sedai y a-t-il au palais ?»«
Ça ne te regarde pas !»
s'écria Réhen Arfor. Mais elle daigna tourner la tête, l'air un peu plus conciliante.
« Après tout, quel mal ça peut faire que tu le saches. Avec Dame Elaine et Ninevé Sedai, elles sont cinq. Voilà beau temps que nous n'en avons pas eu autant. C'est un honneur. »
Rand faillit éclater de rire, même si ça n'avait rien d'amusant. 5. Non, 3. Puisque Nineveh et Elaine étaient de fausses sœurs. 3 authentiques Aes Sedai. Où étaient donc les autres? En réalité, ça n'avait aucune importance. Après avoir entendu des rumeurs sur des centaines d'Aes Sedai en route pour Kaemlyn, Rand avait fini par croire que des légions de sœurs étaient prêtes à suivre le dragon réincarné. Son estimation originelle, une poignée seulement, avait déjà été optimiste. Les rumeurs, décidément, restaient des rumeurs. À moins qu'il s'agisse d'une machination d'Elaïda. Où était Matt, bon sang? Des couleurs dansèrent devant l'œil mental de Rand. Un instant, il crut y voir le visage de Matt, et comme d'habitude, il tituba.
« Si tu es venu ici saoul comme un cochon, Nolly, »
dit Maîtresse Arfor,
« tu le regretteras amèrement. Je m'en assurerai personnellement. »
« Oui, maîtresse, »
fit Rand, en chassant de nouveau la mèche vagabonde. Dans sa tête, il rit comme un dément. Un rire toujours proche des larmes, comme d'habitude. Rand avait été contraint de venir ici, même si ça ne lui disait rien, et il commençait à le regretter. L'aura du Saïdar les enveloppant, Nineveh et Talahan se faisaient face à 4 pas de distance. Dans la cheminée, la flambée avait réussi à réchauffer l'atmosphère glaciale. À moins que ce soit les efforts fournis, se dit Nineveh, Mossad. À en croire l'horloge, sur le manteau de la cheminée, cette leçon durait depuis 1 heure. 1 heure à canaliser sans interruption aurait réchauffé n'importe qui. La corvée aurait dû échoir à Saraïta, mais la sœur Marron était partie du palais, prétextant une mission urgente en ville. Karéan, ayant refusé d'enseigner 2 jours de suite, et Vanden refusant d'enseigner tout court, parce qu'elle s'occupait déjà de Zarya et de Kirstian, l'ancienne sage-dame avait dû s'y coller.
« Comme ça, »
dit-elle, en enroulant son flux d'esprit autour de celui de Latan Miré à la maigreur presque maladive. Avec son flux, Nineveh força son adversaire à reculer. En même temps, elle tissa 3 flux d'air distincts. Le premier vint chatouiller les côtes de Talahan sous son chemisier. Un truc très simple. Mais la jeune fille en gloussa de surprise et elle perdit un court instant le contact avec la source. Profitant de ce répit, Nineveh cessa de repousser le flux d'esprit adverse et dirigea le sien droit sur sa cible originelle. Propulser le bouclier sur Talahan lui donna encore le sentiment de se précipiter contre un mur. N'était qu'elle sentit l'onde de choc dans tout son corps, pas seulement contre sa paume, un progrès. Mais l'aura du Saïdar mourut au moment où les 2 autres flux d'air plaquèrent les bras de la jeune fille contre ses flancs et collèrent ses genoux l'un contre l'autre. « Du travail très propre », se félicita Nineveh. Talahan était très adroite et très vive avec ses tissages. De plus, lancer un bouclier sur une femme en train de canaliser était au mieux hasardeux et au pire totalement futile. Sauf quand on était beaucoup plus puissante que son adversaire. Or, Talahan était quasiment au niveau de l'ancienne sage-dame. De quoi ne pas trop se rengorger de sa victoire. Très peu de temps auparavant, les Aes Sedai s'extasiaient sur la puissance de Nineveh, affirmant que seuls certains rejetés pouvaient l'égaler. Quel âge pouvait avoir Talahan, qui n'avait même pas encore cessé de vieillir? 15 ans? Moins? Qui pouvait estimer son potentiel? Aucune régente des vents n'avait fait allusion à ce point. Et Nineveh n'était pas prête à poser la question. Savoir à quel point une fille du peuple de la mer finirait par la dominer ne l'intéressait pas le moins du monde. Ses pieds nus patinant sur le tapis vert à motif, Talahan tenta de dissoudre le bouclier, une offensive que Nineveh para sans peine, puis soupira d'accablement et baissa les yeux. Même lorsqu'elle respectait à la perfection les consignes de sa formatrice, la jeune fille se comportait comme si elle avait échoué. Après une telle déroute, ses épaules s'affaissèrent et elle se décomposa, à croire que seuls les flux d'air la tenaient encore debout. Dissipant le bouclier, Nineveh ouvrit la bouche pour expliquer à son élève quelle erreur elle avait commise, et pour souligner, une fois de plus, qu'il ne servait à rien de tenter de se libérer quand on n'était pas beaucoup plus puissante que la tisseuse de boucliers. Quand on ne lui répétait pas 10 fois la même chose, avec en sus 20 démonstrations, Lata admirée ne semblait pas percutée.
« Elle a retourné ta force contre toi, »
dit Sénine d'Inrial, avant que Nineveh ait pu prononcer un mot.
« Et de nouveau, elle a recouru à une diversion. C'est comme un combat de lutte, ma fille. Tu sais lutter, non? Essayez encore !»
ordonna Zaïda, avec un geste impérieux de sa main noire tatouée. Même s'il était inutile de dégager ainsi l'espace, tous les sièges avaient été alignés le long des murs. Confortablement assise, Zaïda assistait à la leçon avec six régentes des vents, aux vêtements bariolés et à la quincaillerie voyante. Le protocole type. Une des deux apprentis servait de cobaye, ou Merylil, murmurait-on, forcée à jouer ce rôle, quand elle n'enseignait pas, sous le regard attentif de Zaïda et d'un groupe de régentes choisis au hasard. La maîtresse des vagues était incapable de canaliser, bien entendu. Et aucune des régentes ne daignait s'abaisser à jouer un rôle actif. Surtout pas. Selon Nineveh, le groupe d'aujourd'hui était des plus étranges, quand on connaissait l'importance prépondérante du grade parmi les Atan Miré. La régente des vents de Zaïda, Chielin, était assise sur la droite de sa supérieure. Mince, très réservée et presque aussi grande qu'Avienda, elle dominait Zaïda d'une tête. D'après ce que savait Nineveh, il n'y avait rien d'anormal là-dedans. En revanche, Sénin siégeait sur la gauche de Zaïda, alors qu'elle servait sur un des plus petits vaisseaux de la marine Atan Miré. Un navire minuscule même, y compris dans sa catégorie. Bien entendu, la régente, blanchie sous le harnais, avait jadis porté plus de 6 boucles d'oreilles, et ses chaînes avaient été lestées d'infiniment plus de médaillons. À son zénith, elle était la régente des vents de la maîtresse des navires, avant que Nesta d'Inreas soit élue à ce poste. Selon les lois du peuple de la mer, quand la maîtresse des navires ou une maîtresse des vagues mourait, leur régente des vents devait repartir du plus bas de l'échelle. Mais si Sénine était assise à côté de Zaïda, ce n'était pas seulement un témoignage de respect visant son glorieux passé. Jeune femme aux pommettes hautes, Reynine, qui servait aussi sur un petit bateau, était assise près de Sénine, et Corinne, visage de marbre et yeux d'acier, avait pris place à côté de Chielin. Keire et Tebrey se retrouvaient aux deux extrémités de la rangée, alors qu'elles étaient toutes deux régentes des vents d'une maîtresse des vagues, chacune arborant 4 gros anneaux dans les oreilles et presque autant de médaillons que Zaïda. Tout ça pour garder les deux sœurs loin l'une de l'autre? De fait, elles se haïssaient avec une passion tout ce qu'il y avait de familial. Oui, c'était peut-être la réponse. Tenter de comprendre les Atta Admiré était encore plus difficile que d'essayer avec les hommes. Une femme pouvait y perdre la raison. En marmonnant entre ses dents, Nineveh tira sur son châle, puis prépara ses flux. La joie de canaliser ne parvint pas à lui faire oublier la vexation. « Recommence, Nineveh. Fais-le maintenant, Nineveh. Et quoi encore ?» Par bonheur, Reneil n'était pas là. Très souvent, les Atta Admiré lui demandaient des cours sur des sujets qu'elle maîtrisait mal, voire pas du tout, parce que sa formation à la tour avait été des plus sommaires. Dès qu'elle hésitait un peu, Reneil se délectait de la voir transpirer à grosses gouttes. Les autres ne la ménageaient pas, mais elle ne jubilait pas quand elle était à la dérive. Quoi qu'il en soit, après une heure, elle était épuisée. Que la lumière brûle Sareïta et sa maudite mission. Talahan attaqua de nouveau. Mais son flux d'esprit percuta moins violemment celui de Nineveh, qui du coup déviait le tissage beaucoup plus loin d'elle que prévu. Dans la foulée, Talahan lui expédia 6 flux d'air, qu'elle coupa net avec un tissage de feu. Les flux d'air revinrent vers la jeune fille comme des élastiques, la secouant visiblement, puis ils se dissipèrent. Après que 6 autres se furent matérialisés, projectiles fondant sur Nineveh bien plus rapidement que les précédents. Nineveh voulut les trancher et resta bouche bée quand le tissage d'esprit s'enroula autour du sien et l'isola du Saïdar. Nineveh Almehara, coupée de la source par une débutante. Comme pour l'humilier un peu plus, les flux d'air s'enroulèrent autour de son torse et de ses jambes, l'immobilisant. Si elle n'avait pas été furieuse contre Sareïta, rien de pareil ne se serait produit.
« La petite a gagné !»
dit Keire, surprise, et pas du tout enthousiasmée. Au regard froid qu'elle jeta à Talahan, nul n'aurait deviné qu'elle était sa mère. Comme embarrassée par son succès, la jeune fille relâcha ses flux et baissa les yeux.
« C'est très bien, Talahan !»
se décida à dire Nineveh, puisque personne d'autre ne semblait enclin à féliciter la gamine. Agacée, l'ancienne sage-dame tira sur son châle pour qu'il tombe bien droit au creux de ses coudes. Pourquoi dire à la jeune fille qu'elle avait eu de la chance? Elle était rapide, certes, mais face à une adversaire loin de sa meilleure forme.
« Eh bien, je crois avoir épuisé ma réserve de temps libre, donc... Recommencez !»
ordonna Zaïda, penchée en avant sur son siège.
« Je veux voir quelque chose. »
Ce n'était pas une explication, et encore moins des excuses, mais un simple constat. Réticente à expliquer comme à s'excuser, elle entendait simplement qu'on lui obéisse. Nineveh envisagea de répondre qu'une profane ne pouvait rien voir de ce que Talahan et elle faisaient, mais elle renonça aussitôt à cette idée. Avec 6 régentes des vents dans la salle, aurait été trop risqué. Deux jours plus tôt, elle avait donné son avis à voix haute, et elle ne comptait pas recommencer de si tôt. Tentée de se dire que c'était un châtiment pour avoir parlé sans réfléchir, elle n'en avait pas été consolée pour autant. Quelle idée idiote d'avoir appris à ses femmes comment former un lien. Préparée à la ruse de Talahan, elle para son attaque plus habilement, et avec juste ce qu'il fallait de force. Déconcertée, la petite eut un sourire hésitant.
« Tu te dis que je ne me laisserai pas avoir par des flux d'air ce coup-ci, c'est ça ?»
Le tissage de Talahan voulut s'enrouler autour du sien, mais elle tissa une riposte ingénieuse. Quand la gamine enverrait ses flux d'air, elle allait avoir une sacrée surprise. À moins qu'elle n'opte pas pour de l'air cette fois. Mais à l'entraînement, elle ne ferait rien de dangereux, pas vrai ? Le flux d'esprit de Talahan n'effectua pas une boucle complète. Du coup, celui de Ninevé frappa dans le vide. Saisissant l'ouverture au vol, Lata Admirée lança ses flux d'air. De nouveau coupée de la source, l'ancienne sage-dame se retrouva proprement saucissonnée. Elle inspira très lentement. En principe, elle allait devoir féliciter son adversaire. Il n'y avait pas d'échappatoire. Si elle avait eu une main libre, sans doute aurait-elle tiré sur sa natte assez fort pour l'arracher de son crâne.
Plus un geste !
Ordonna Zaïda. Se levant, elle avança vers Ninevé dans le bruissement de son pantalon de soie rouge, tenu par une ceinture écarlate dont la longueur excédentaire, bizarrement nouée, battait sur sa cuisse. Par ordre hiérarchique, les régentes des vents se levèrent et la suivirent. S'ignorant superbement, Keiré et Tebrei jouèrent des coudes pour venir se placer juste derrière la maîtresse des vagues. Humblement, Sénin et Reynin se contentèrent de fermer la marche. Docile, Talahan maintint son bouclier et ne desserra pas les liens qui entravaient Ninevé, qui sentit la fumée lui monter au naseau. Par fierté, elle refusait de se débattre, mais rien ne l'empêcherait de bouillir intérieurement. Keiré et Tebrei l'étudièrent avec un dédain palpable, et Courine avec le franc mépris que lui inspiraient tous les habitants de Terre Mouillée. Sans qu'elle s'abaisse à grimacer ou à exprimer son dégoût, on ne pouvait pas se méprendre sur ce qu'elle éprouvait. Reynin seule manifesta une ombre de compassion, visible dans son demi-sourire mélancolique. De la même taille que Ninevé, Zaïda plongea son regard dans le sien.
« Apprenti, tu la tiens aussi solidement que possible ?»
Talahan s'inclina bien bas, puis toucha son front, ses lèvres et son cœur.
« Selon tes ordres, maîtresse des vagues, »
souffla-t-elle.
« Que signifie tout ça ?»
demanda Ninevé.
« Libérez-moi ! Traiter Merilil de cette façon, ça peut passer. Mais si vous croyez que, selon toi, pour briser un bouclier, il faut être beaucoup plus forte que celle qui le tisse, »
coupa Zaïda. D'un ton contrôlé, mais assez ferme pour imposer le silence à l'ancienne sage-dame.
« Si la lumière le veut bien, nous allons savoir si tu disais vrai. Les Aes Sedai ont l'air de jongler avec la vérité, tout le monde sait ça. Régente devant, veuillez former un cercle. Corinne, à toi le commandement. Si elle se libère, veille à ce qu'elle ne blesse personne. Apprenti, prépare-toi à la mettre cul par-dessus tête quand j'aurai compté jusqu'à 5. 1. »
L'aura du Saïdar enveloppa les régentes des vents, tandis qu'elles se liaient. Les poings plaqués sur les hanches et les pieds accrochés au sol, Corinne semblait se tenir sur le pont d'un bateau. À voir son air buté, on devinait sans peine ce qu'elle pensait. L'Aes Sedai avait menti, au moins par omission, et ça apparaîtrait bientôt au grand jour. Sans s'incliner, pour une fois, Talahan inspira à fond et riva les yeux sur Zaïda. Ninevé battit des paupières. Non, elle n'allait pas lui infliger ça. Il n'était pas question que ça recommence.
« Je vous assure que je n'ai aucun moyen de me libérer. Talahan est trop puissante. »« 2. »
fit Zaïda. Les bras croisés, elle regarda Ninevé comme si elle pouvait réellement voir les tissages. L'ancienne sage-dame éprouva la résistance du bouclier. Autant essayer de pousser une muraille de pierre.
« Maîtresse des vagues !»
Inutile d'énerver encore plus cette femme. Sur les titres, les Hata admirés étaient très pointilleux. Et s'il n'y avait eu qu'avec ça...
« Je suis sûr que Merilil vous a parlé des boucliers. » Enfin, elle a prêté les trois serments, donc elle ne peut pas mentir.
Et Gwen avait-elle raison au sujet du bâton des serments ?
3,
continua Zaïda, imperturbable.
Écoutez-moi !
Implora Ninevé. Tant pis si elle paraissait un peu désespérée. Un peu ? Ben, euphémisme. Cette fois, de toutes ses forces, elle tenta de briser le bouclier et constata qu'elle aurait eu plus de succès en se cognant la tête contre un rocher. D'instinct, alors que ça ne servirait à rien, elle se débattit enfin contre les liens d'air qui l'immobilisaient. C'était perdu d'avance, mais elle ne parvint pas à s'en empêcher. Non, pas encore. Elle ne voulait pas revivre ce cauchemar.
Par pitié, écoutez-moi. 4.
Non, non, pas ça. Surtout pas ça. Affolée, Ninevée griffa le bouclier. S'il était dur comme la pierre, au toucher, on aurait plutôt dit du verre lisse et glissant. Derrière, elle sentait la source, presque capable de la voir, comme si elle apercevait de la lumière à la périphérie de sa vision. Avec l'énergie du désespoir, elle testa la surface lisse. Une sorte de cercle, à la fois assez petit pour tenir dans sa main et assez grand pour englober le monde. Mais quand elle tenta de contourner cet obstacle, elle se retrouva au centre du piège, à son point de départ. Une expérience qu'elle avait faite assez longtemps auparavant. Le cœur battant la chamade, elle recommença à explorer le cercle et trouva un endroit où il semblait moins résistant. Une faiblesse qu'elle n'avait jamais remarquée lors de son expérience précédente. Le point faible, tout relatif, ne semblait pas différent du reste de la surface. Et il ne devait pas être beaucoup moins résistant. Mais elle se précipita dessus et fut impitoyablement renvoyée en arrière. Folle de rage, elle répéta l'opération, obtenant le même résultat. Encore une fois. Puis une autre. Il fallait que... Soudain, Ninevée s'avisa que Zaïda n'avait pas encore prononcé le 5 fatidique. Le souffle court, comme si elle venait de courir sur 4 lieues, elle regarda la table mirée. De la sueur dégoulinait entre ses omoplates, sur son torse et jusque sur son ventre. Et ses genoux jouaient des castagnettes. En se tapotant pensivement les lèvres, la maîtresse des vagues la considérait comme une bête curieuse. L'aura du Saïda enveloppait toujours les 6 régentes. Corinne ressemblait encore à une statue de marbre. Mais Zaïda n'avait pas dit 5.
« Corinne, a-t-elle vraiment essayé de toutes ses forces ?»
demanda la maîtresse des vagues.
« Ou s'est-elle portillée en gémissant pour nous tromper ?»
Ninevée essaya de se fendre d'un regard indigné. Se tortiller en gémissant, elle ? Enfin quoi ? Son regard, quoi qu'il exprimât, n'ébranla pas la sérénité goguenarde de Zaïda.
« Avec l'énergie qu'elle a dépensée, » répondit Corinne à contre-cœur. « Elle aurait pu porter un raken sur son dos. »
Rien d'admiratif dans cette constatation. Pour mériter le respect de cette femme, il fallait vivre sur la mer.
« Libère-la, Talan !»
ordonna Zaïda. Le bouclier et les liens se volatilisèrent. Sans un regard pour sa victime, la maîtresse des vagues se tourna vers les régentes.
« Quand elle sera partie, j'aurai un mot à vous dire. Ninevée Sedai, demain même heure. »
Après avoir lissé le devant de sa robe et tiré sur son châle, l'ancienne sage-dame se concentra pour recouvrer un peu de dignité. Rien de facile quand on tremblait de la tête aux pieds et suait à grosses gouttes. Non, elle ne s'était pas tortillée en gémissant. Elle fit de son mieux pour ne pas regarder la gamine qui l'avait vaincue 2 fois. Bien entendu, elle ne réussit pas. Les yeux baissés, Talan semblait aussi inoffensif qu'un nouveau-né.
« Chippy, maîtresse des vagues, demain ce sera le tour de Saraïta Sedai. »
Au moins, se réjouit Ninevée, sa voix ne tremblait pas.
« Demain je serai occupé jusqu'à... Tes leçons sont bien plus édifiantes que celles des autres. »
dit Zaïda, toujours sans regarder son interlocutrice.
« Demain, même heure, où j'enverrai tes élèves te chercher. Tu peux te retirer. »
Une façon de dire « dehors et vite ». Au prix d'un gros effort, Ninevée ravala ses objections et leur trouva un goût amer. Plus édifiante ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? Au fond, elle n'avait pas envie de le savoir. Jusqu'à ce qu'elle ait quitté la pièce, elle resterait l'enseignante. Sur les règles, le peuple de la mer ne transigeait pas. À bord d'un bateau, le laxisme devait sans doute provoquer de gros problèmes. Cela dit, on n'était pas sur un bateau. Et ces femmes auraient quand même dû s'en apercevoir. En tant qu'enseignante, Ninevée ne pouvait pas s'éclipser comme une domestique, même si elle en brûlait d'envie. Et au sujet des enseignants issus des terres mouillées, les règles étaient encore plus spécifiques. L'ancienne sage-dame aurait pu refuser de coopérer, supposait-elle. Mais si elle ne respectait pas le funeste marché, ces femmes le claironneraient dans tous les coins du monde. Ainsi, personne n'ignorerait que les Aes Sedai n'avaient pas tenu parole. Le désastre pour leur réputation n'était même pas imaginable. Par le sang et les cendres, Egwene avait raison. Et que le ténébreux l'emporte pour ça.
Maîtresse des vagues, merci de m'avoir permis de t'instruire.
Ninevée s'inclina, puis toucha son front, ses lèvres et son cœur. Comme révérence, on trouvait facilement mieux. Mais ces femmes n'auraient rien de plus aujourd'hui. En double exemplaire, cependant, puisque les régentes y avaient droit aussi.
Régente des vents, merci de m'avoir permis de vous instruire.
Les sœurs qui prendraient la suite de Ninevée blêmiraient d'indignation, en apprenant que leurs élèves pouvaient leur imposer ce qu'elles devraient enseigner et leur donner des ordres hors du cadre strict des cours. Sur un bateau du peuple de la mer, un formateur des terres mouillées avait à peine plus de valeur qu'un matelot. Et les Aes Sedai ne recevraient même pas en compensation les bourses pensues qui attiraient à bord les autres professeurs. Zaïda et les régentes réagirent exactement comme si un matelot de second rang venait de leur annoncer qu'il allait partir. En d'autres termes, elles ne bronchèrent pas, attendant que la fâcheuse veuille bien aller voir ailleurs si elles y étaient. Seule Réunine, comme toujours, se montra moins dure en gratifiant Ninevée d'un regard. Impatient, cependant. Après tout, elle était une régente des vents. Toujours au même endroit, Talahan continuait à observer intensément le tapis, sous ses pieds nus. Tête haute et dos bien droit, Ninevée sortit, avec toute la dignité qu'elle put encore mobiliser. En sueur, sa fierté en lambeaux, ça n'alla pas bien loin. Une fois dans le couloir, elle prit la porte à deux mains et la claqua aussi fort que possible. Le vacarme eut quelque chose de satisfaisant. Et si Léata admirait s'en offusquait, elle pourrait toujours prétendre qu'elle n'avait pas fait exprès. Se détournant de la porte, elle se frotta les mains en jubilant, puis sursauta en voyant qui l'attendait dans le couloir.
Dans une robe bleue toute simple fournie par une tricoteuse, Alivia, au premier abord, n'avait rien d'extraordinaire. Un peu plus grande que Ninevée, ses cheveux blonds grisonnants, elle arborait des ridules autour des yeux. Mais des flammes crépitaient dans son regard, celui d'un faucon qui se concentre sur une proie.
« Maîtresse Corlie aimerait vous avoir à dîner ce soir, »
annonça Alivia, avec l'accent traînant typique des Séanchaniens.
Les maîtresses Caristovan, Arman et Djouardé seront également présentes.
« Que fais-tu seule ici ?»
demanda Ninevée. Contrairement à la plupart des sœurs, elle était incapable d'évaluer en un éclair la puissance d'une autre femme, une autre lacune due à sa formation trop rapide. Quoi qu'il en soit, à part peut-être certains rejetés, personne n'arrivait à la cheville d'Alivia. C'était une Séanchanienne. Ninevée aurait donné cher pour qu'il y ait quelqu'un avec elle. Même Lan, alors qu'elle lui avait ordonné de rester loin de ses cours avec les Ata admirés. Quelques jours auparavant, il n'avait pas paru convaincu quand elle avait prétendu être tombée dans un escalier.
« Tu n'es pas censé te déplacer sans escorte. »
Alivia haussa très légèrement une épaule. Un peu plus tôt, par rancœur d'obséquiosité, elle aurait fait passer Talahan pour une rebelle. Mais c'était terminé à présent.
« Il n'y avait personne pour m'accompagner, alors. De toute façon, si on me surveille en permanence, on n'aura jamais confiance en moi, et je ne pourrai pas tuer des souldames. »
Dit sur ce ton détaché, ces quelques mots étaient encore plus terrifiants.
« Vous avez beaucoup à apprendre de moi. Les Achamans affirment être des armes, et je sais qu'ils ne sont pas trop mauvais, mais je leur suis supérieur. Ça reste à prouver, »
lâcha Ninevée.
« Et nous en savons peut-être plus que tu crois. »
Faire devant cette femme une petite démonstration de tissage appris de Moguedienne n'aurait pas déplu à Ninevée, y compris ceux qui avaient été jugés trop horribles pour qu'on y recourt. Seulement, eh bien... Alivia se serait sûrement jouée d'elle, parce qu'elle était effectivement meilleure. Sous son regard, ne pas frémir était déjà un exploit.
« Jusqu'à ce que nous en ayons décidé autrement, si ça advient, ne te présente plus devant moi sans deux ou trois tricoteuses à tes côtés. Tu ne veux pas qu'il t'arrive de misère. »«
Si tu vois les choses ainsi, »
fit Alivia, pas le moins du monde ébranlé.
« Que dois-je répondre à maîtresse Corlie ? Annonce-lui que j'ai le regret de devoir décliner son invitation. » Et n'oublie pas ce que je viens de te dire.
Je transmettrai le message. »
fit la Séanchanienne, comme si elle n'avait pas entendu la mise en garde.
Mais ce n'était pas vraiment une invitation. Une heure après la tombée de la nuit, a-t-elle dit. Tu devrais t'en souvenir aussi.
Avec un sourire ironique, Alivia s'éloigna, pas pressée du tout de retourner là où était sa place. Ninevée la foudroya du regard, pas parce qu'elle avait omis de s'incliner. Enfin, pas seulement. Dommage qu'elle n'ait pas gardé un peu de son obséquiosité, au moins avec les sœurs. Après un coup d'œil rageur sur la salle où se trouvaient encore les Ata admirés, Ninevée envisagea de suivre Alivia pour voir si elle allait livrer son message. Mais elle partit dans la direction opposée, et sans se presser. Si une Ata admirée sortait, elle la soupçonnerait d'avoir écouté à la porte, mais ce n'était pas une raison pour se précipiter. Et si elle marcha quand même d'un bon pas, c'était parce qu'elle en avait envie. Au palais, les Hatta admirés n'étaient pas les seules personnes qu'elle aurait voulu éviter. Pas vraiment une invitation? Soumeko Karistovan, Chilares Arman et Famel Joardé avaient appartenu au cercle du tricot avec Réan Corly. Le dîner n'était qu'un prétexte. Ces femmes voulaient parler avec elle des régentes des vents. Plus précisément, du rapport entre les Aes Sedai présentes au palais et les naturels du peuple de la mer. Selon toute probabilité, elle ne reprocherait pas à Nineveh de n'avoir pas défendu la dignité de la Tour Blanche. Jusque-là, elle n'était jamais allée aussi loin, mais ça viendrait. Et au long du repas, les questions insidieuses et les commentaires acides fuseraient de toutes parts. Rien que Nineveh pouvait interdire, et à moins d'un ordre sans ambiguïté, ces femmes continueraient leur petit jeu. Et si elle n'allait pas à elle, elle serait tout à fait capable de venir la chercher. Les encourager à relever la tête avait été une terrible erreur. Au moins, elle n'était pas la seule à en subir les conséquences, même si Elaine s'en tirait plutôt pas mal. Vivement que les femmes de la famille se retrouvent en robe blanche de novice ou en tenue d'acceptée. Et encore plus vivement que les Hatta admirés débarrassent le plancher.
« Nineveh !»
Un cri étrangement étouffé derrière elle, avec l'accent du peuple de la mer.
« Nineveh !»
S'obligeant à ne pas tirer sur sa natte, Nineveh se retourna, prête à incendier la fâcheuse. Elle n'était pas en train d'enseigner, et on ne se trouvait pas sur un bateau, et ces fichues bonnes femmes pouvaient quand même la laisser tranquille. Ses pieds nus glissant sur les dalles rouges foncées, Talaan s'immobilisa devant l'ancienne sage-dame. Le souffle court, elle regarda par-dessus son épaule, comme si elle craignait qu'on l'ait suivie. Tressaillant dès qu'elle apercevait une silhouette, elle soupirait de soulagement chaque fois qu'il s'agissait d'un domestique.
« Puis-je aller à la Tour Blanche ?»
demanda-t-elle, haletante et surexcitée.
« Jamais je ne serai choisie. Quitter à tout jamais la mère, les autres appellent ça un sacrifice. Bien sûr, ma mère me manquera, mais je rêve de devenir une novice. De grâce, Nineveh, permets-moi de rejoindre la Tour. »
Nineveh tressaillit face à cette logorée. Beaucoup de femmes rêvaient de devenir sœurs, mais novice ? Personne ne lui avait jamais dit ça. De plus, eh bien, les Hatta admirés refusaient aux Aes Sedai tout passage sur un navire dont la régente des vents était capable de canaliser. Histoire de décourager les sœurs d'y aller voir de plus près, une apprentie était de temps en temps sélectionnée pour rallier la Tour Blanche. Selon Egwen, trois sœurs seulement étaient originaires du peuple de la mer. Et toutes étaient très faibles dans le pouvoir. 3000 ans durant, cette ruse avait suffi à convaincre les Aes Sedai que les Hatta admirés étaient plus que médiocrement doués en ce qui concernait la source. Talaan disait vrai. Une fille aussi puissante qu'elle ne serait jamais sélectionnée, même si le subterfuge commençait à être éventé. À vrai dire, le fameux marché stipulait même que les femmes du peuple de la mer devenues Aes Sedai auraient le droit de renoncer et de rentrer chez elles. Un détail qui ferait hurler à la mort les représentantes.
« Talaan, la formation est très dure, et il faut avoir au minimum 15 ans. »
Nineveh se souvint soudain d'une phrase de la jeune fille.
« Ta mère te manquera, as-tu dit ?»
Difficile à croire, quand on connaissait les rapports entre les deux femmes.
« J'ai 19 ans !»
s'écria Talaan, outragé. Devant ce visage juvénile, Nineveh eut du mal à y croire.
« Et bien sûr que ma mère me manquera. Ai-je l'air d'une fille indigne ? Mais tu ne comprends pas ce que je vois. En privé, nous sommes très proches. En public, ma mère doit éviter toute manifestation de favoritisme. Dans notre culture, c'est un crime. Ma mère pourrait y perdre son rang, et nous risquerions d'être pendus cul par-dessus tête au gréement pour être fouettés. »
Le « cul par-dessus tête » arracha une grimace à Nineveh.
« Je comprends que tu veuilles éviter ça, »
dit-elle.
« Cependant, tout le monde préfère ne pas être soupçonné de favoritisme, Nineveh. Mais pour moi, c'est beaucoup plus grave. »
Si elle voulait devenir une novice, Talaan devrait apprendre à ne pas interrompre une sœur. Mais ça n'était pas gagné. Alors que Nineveh tentait de reprendre l'initiative, Talaan se lança dans une tirade enflammée.
« Ma grand-mère est la régente des vents de la maîtresse des vagues du clan Rossein. Mon arrière-grand-mère est régente pour le clan Dakan, et sa sœur pour le clan Takana. Les miens se rengorgent que 5 d'entre nous, avec ma mère et ma tante, est atteint de tels postes. Mais dans les autres familles, on est attentif à tout signe indiquant que les Guélines abusent de leur pouvoir. À juste titre, j'en ai conscience. Parce que le népotisme est inacceptable. Mais ma sœur est restée apprentie 5 ans de plus que la moyenne, et ma cousine 6. Rien que pour prouver que personne ne les favorisait. Quand je calcule la position du navire, on me punit à cause de ma lenteur. même quand j'étais aussi rapide qu'Evon, la régente des vents. Et lorsque je hume l'air pour déterminer de quelle côte nous approchons, je suis encore puni. Parce que Evon ne lui trouve pas la même odeur que moi. Je t'ai isolé deux fois de la source. Mais ce soir, je serai pendu par les pieds pour ne pas l'avoir fait plus tôt. On me châtie pour des fautes qu'on ne remarque pas chez les autres, ou pour des erreurs que je n'ai pas commises. Juste parce que c'est moi. Ton noviciat a-t-il été aussi dur, Ninevé ?
Mon noviciat ?
Répéta l'ancienne sage-dame, mal à l'aise. Elle aurait préféré que Talahan ne mentionne pas de nouveau une pendaison par les pieds.
Eh bien, il vaut mieux que tu ne le saches pas.
Quatre générations de femmes capables de canaliser, alors que la transmission entre mère et fille était déjà une exception. La Tour Blanche serait plus que prête à accueillir Talahan, mais ça n'arriverait pas.
Je suppose que Keire et Tebrei s'adorent aussi,
fit Ninevé, histoire de changer de sujet. Talahan eut un rictus.
Ma tante est menteuse et manipulatrice. Elle se réjouit chaque fois qu'elle peut humilier ma mère, mais elle ne s'en tirera pas comme ça. Un jour, tante Tebrei se retrouvera sur un petit bateau et sous les ordres d'une maîtresse des voiles tyrannique.
Talahan sursauta parce qu'un domestique approchait dans son dos. L'angoisse la ramena à ses moutons et elle recommença à regarder nerveusement autour d'elle.
« Pendant les cours, tu ne peux pas parler, mais n'importe quel autre moment fera l'affaire. Dis simplement que je vais aller à la tour et elles ne pourront rien faire. Tu es une Aes Sedai. »
Ninevé dévisagea son interlocutrice. Lors de la leçon suivante, les Hatta admirés se vengeraient et elle aurait intérêt à numéroter ses abatis. Cette petite idiote n'avait-elle donc pas vu ce qu'on venait de lui infliger ?
Je comprends que tu veuilles partir, Talahan, mais... Merci,
coupa la jeune fille en s'inclinant.
Merci.
À la vitesse du vent, elle repartit d'où elle venait.
Attends !
Cria Ninevé. Elle la poursuivit sur quelques pas, puis renonça.
Reviens ! Je ne t'ai rien promis !
Des domestiques tournèrent la tête vers l'ancienne sage-dame et continuèrent à la lorgner du coin de l'œil en retournant à leurs occupations. Peu désireuse de tomber sur Zaïda et les autres, Ninevé fit demi-tour. Si elle ne faisait rien, la petite dinde allait sans nul doute claironner qu'elle irait bientôt à la tour, parce que la Aes Sedai le lui avait promis. Misère. C'était ce qu'elle raconterait dans tous les cas, très probablement.
« Tu viens d'avaler une mirabelle pourrie ?»
demanda Lan en approchant. Un grand et bel homme, dans sa veste verte bien coupée. Depuis quand était-il là ? Il semblait impossible qu'un type si imposant, tant mentalement que physiquement, puisse passer inaperçu comme ça, même sans sa cape caméléon.
« Non, un plein panier !»
souffla Ninevé, en se blottissant contre le torse de son mari. C'était si bon d'être près de lui, tandis qu'il lui caressait les cheveux, même si le pommeau de son épée lui taquinait les côtes. Et s'il y avait des curieux avides d'observer cette manifestation publique de tendresse, grand bien leur fasse. De toute façon, les désastres se succédaient en rang serré. Même si elle disait à Zaïda et consorts qu'elle n'avait pas l'intention de recruter Talahan, ces maudites femmes l'écorcheraient vive. Et elle ne pourrait pas le cacher à Lan cette fois, en supposant qu'elle ait réussi le premier coup. Réan et les autres seraient bientôt au courant, puis à Lise. La traitant comme elle traitait Merylil, elles ignoreraient ses ordres et lui témoigneraient à peu près autant de respect que les régentes des vents en accordaient à Talahan. Elle finirait par devoir surveiller Alivia, et une quelconque catastrophe en résulterait. Une misère de plus. Ces derniers temps, collectionner les humiliations devenait sa spécialité. Et tous les quatre jours, elle devrait quand même officier sous l'œil de Zaïda et des autres.
« Te souviens-tu comment tu m'as convaincu de rester dans nos appartements hier matin ?»
demanda-t-elle. Levant les yeux, elle eut le temps de voir passer un sourire sur les lèvres de Lan. Bien entendu qu'il s'en souvenait. Ninevé se sentit rosir. Se vanter auprès de ses amis était une chose, mais faire des avances à son mari, quand même.
« Bon, je veux que tu me ramènes chez nous et que tu m'empêches d'enfiler des vêtements pendant une bonne année. »
Au début, Ninevé avait assez mal pris l'initiative de Lan, mais il avait une manière très particulière de la calmer. Le champion éclata de rire. Après un moment, sa femme l'imita. Pourtant, elle aurait eu envie de pleurer, parce qu'elle ne plaisantait pas. Son statut de femme mariée lui épargnait de devoir partager un lit avec une autre femme, ou deux, et lui donnait le droit d'avoir un salon. Pas grand, mais douillet, avec une bonne cheminée, une petite table et quatre chaises. Lan et elle n'avait besoin de rien d'autre. Hélas, tous les rêves d'intimité sombrèrent dès qu'ils furent entrés dans le fameux salon. Au milieu de la pièce, la première servante attendait avec une grâce de reine. Tirée à quatre épingles, comme toujours, elle n'avait pas l'air très contente. Dans un coin, un type mal foutu, une horrible verrue sur le nez, attendait aussi, un sac pendu à son épaule.
« Cet homme prétend détenir quelque chose que vous voulez à tout prix, »
annonça maîtresse Harfort après une rapide révérence. Très rapide aurait été plus juste. Sauf avec Elaine, Réhenne ne partait jamais de temps en ronde jambe.
« Inutile de vous dire que je n'aime pas son allure, »
fit-elle, aussi mécontente contre la Sedai que contre le visiteur. Dans son état d'épuisement, Nineveh se serait crue incapable de se tenir à la source. Stimulée par l'angoisse d'être face à un tueur, elle y parvint pourtant. Sans doute parce qu'il avait vu un changement sur son visage, l'âne fit un pas vers l'homme à la verrue. Sa main ne vola pas sur son épée, mais à voir sa posture, on aurait cru qu'il l'avait déjà dégainée. Comment parvenait-il à lire ses pensées, alors qu'il était lié à une autre sœur? Nineveh l'ignorait, mais ça lui réchauffait le cœur. En puissance pure, elle s'était montrée l'égale de Talahan, mais là, elle aurait été incapable de renverser une chaise avec le pouvoir.
« Je n'ai jamais... »
commença-t-elle.
« Excuse-moi, maîtresse, » fit l'ignoble type. « Mais maîtresse Tain a dit que tu voulais me voir sans attendre. Une affaire qui concerne le cercle des femmes, paraît-il. Au sujet de Senbui. »
Nineveh sursauta et se souvint juste à temps qu'il y avait un témoin.
« Oui, »
souffla-t-elle en étudiant l'homme. Voir autre chose que sa verrue était difficile. Pourtant, elle aurait juré ne l'avoir jamais rencontré. Le cercle des femmes? Aucun homme n'aurait été mêlé à ces affaires-là. C'était ultra secret. Prudente, la jeune femme resta en contact avec la source.
Je me souviens à présent. Merci, maître Harfort. Je parie que le devoir vous appelle.
Au lieu de saisir la perche, la première servante hésita, l'air suspicieuse. Puis elle regarda le type, évalua l'âne de la tête aux pieds, et se détendit.
Je me retire donc. Sans nul doute, le seigneur l'âne saura contrôler ce personnage.
Vibrante d'indignation, Nineveh eut du mal à attendre que la porte soit refermée sur Réhenne.
« Qui es-tu »
demanda-t-elle au pathétique verruqueux.
« D'où tiens-tu ce que tu m'as dit? Tu ne viens pas de Deux-Rivières. »
La silhouette de l'homme ondula. Il n'y avait pas d'autre mot. S'étirant en hauteur, il devint soudain rande, avec ses horribles têtes de dragon sur le dos des mains. Où avait-il appris à faire ça? Et auprès de qui? Nineveh résista à l'envie de se déguiser aussi, pour lui montrer qu'il n'était pas le seul à maîtriser ce truc.
« Je vois que tu n'as pas suivi ton propre conseil, Lan, »
dit Rand, comme si la jeune femme n'était pas là.
« Mais pourquoi la laisses-tu jouer à la Aes Sedai? Même si les vraies sœurs tolèrent ça, elle risque de se blesser.
« Berger, elle est une Aes Sedai désormais, »
répondit Lan, sans regarder sa femme, et en ayant toujours l'air prêt à dégainer son épée.
« Quant au reste, eh bien, parfois une femme est plus forte qu'un homme. Et toi, tu l'as suivi ce conseil ?»
Rand étudia Nineveh. Même quand elle tira sur son châle, faisant osciller les franges jaunes, il parut ne pas en croire ses yeux.
« Non, tu avais raison. Parfois, on est trop faible pour faire ce qui s'impose. »«
De quoi parlez-vous tous les deux ?»
lança Nineveh.
« Des histoires d'hommes. »
éluda l'âne.
« Tu ne comprendrais pas. »
assura Rand. Nineveh haussa les épaules. Les conversations d'hommes, c'était 9 fois sur 10 des ragots et des bavardages. Au mieux. À contre-cœur, elle se coupa de la source. Face à Rand, elle n'avait pas besoin de se protéger, mais le contact avec le pouvoir était toujours agréable, même quand on tenait à peine debout.
« Au sujet de Kairienne, nous savons, Rand, »
dit-elle, en se laissant tomber sur une chaise. Ses maudites Atta admirée l'avaient vidée de ses forces.
« C'est pour ça que tu es ici, vêtu comme un vagabond? Si tu essaies de te cacher de tes agresseurs, qui que... »
Nineveh n'alla pas plus loin. Rand avait l'air fatigué. Plus dur qu'avant, certes, mais épuisé. Pourtant, il ne s'était pas assis. Bizarrement, comme l'âne, il semblait prêt à dégainer une épée qu'il ne portait pas. La tentative d'assassinat lui avait peut-être ouvert les yeux.
« Rand, et Gwen peut t'aider.
Je ne me cache pas vraiment. Ou en tout cas, juste le temps de tuer quelques types qui ne méritent plus de vivre. »
On aurait cru entendre parler Olivia. Et pourquoi les deux hommes continuaient-ils de se surveiller du coin de l'œil en faisant semblant de rien?
Et comment pourrait-elle m'aider, Egwene?
Rand posa son sac sur la table avec un bruit indiquant qu'il était plein.
Elle aussi, c'est une Aes Sedai?
Une idée qui semblait amuser Rand.
Elle est ici? Vous trois et deux vraies sœurs. Deux seulement. Mais je n'ai pas de temps pour ça. Je voudrais que tu gardes quelque chose jusqu'à ce que...
Egwene est la chair d'Amerline, stupide berger!
Interrompre quelqu'un, quel bonheur pour une fois.
Elaïda est une usurpatrice. J'espère que tu as eu l'intelligence de te tenir loin d'elle. Si tu la rencontres, tu ne repartiras pas sur tes deux jambes. Crois-moi, ici, il y a 5 vraies sœurs, dont moi, et quelques 300 autres marchent avec Egwene. Et une armée prête à renverser Ilaïda. Et toi, regarde-toi. Pour parler, tu es très fort. Mais quelqu'un a tenté de te tuer, et tu rôdes par ici vêtu comme un garçon d'écurie. Où serais-tu plus en sécurité qu'avec Egwene? Même tes achamans hésiteraient face à 300 sœurs.
Bien envoyé, ça. En vain, Rand tenta de cacher sa surprise.
Tu serais étonné par l'audace de mes achamans, finit-il par dire. Je suppose que Matt est avec l'armée d'Egwene.
Rand porta une main à sa tête et tituba. Très légèrement, mais Nineveh bondit de sa chaise avant qu'il ait eu le temps de se rétablir. S'ouvrant au Saïdar au prix d'un gros effort, elle prit la tête de Rand entre ses mains et tissa autour de lui un réseau spécial, permettant de détecter des blessures. Sans succès, elle avait cherché un moyen de diagnostic plus sûr que cette méthode. Mais au fond, c'était assez fiable. L'ancienne sage-dame en eut le souffle coupé. Au courant de la blessure au flanc reçue par Rand à Falm, une pustule maléfique inguérissable, elle ignorait qu'il en avait récolté une autre au même endroit, superposée à la première. Une plaie tout aussi souillée et insensible à l'action du pouvoir. Alors qu'elle n'en avait aucune envie, cette seule idée la rendait malade, elle essaya quand même. Et quelque chose fit obstacle au flux de Saïdar. Une sorte de protection invisible. Du Saïdine ? Cessant de canaliser, la jeune femme recula. Fatiguée ou pas, elle resta unie à la source. Pour s'en séparer, il lui faudrait faire un effort. Aucune sœur ne pouvait penser sans appréhension à la partie masculine du pouvoir. Rand la regardait calmement, ce qui la fit frissonner. Désormais, il ne ressemblait plus du tout au Randaltor qu'elle avait vu grandir. Une chance que l'âne soit là, et tant pis si reconnaître qu'il la rassurait n'était pas facile. Le champion, sa visa Nineveh, ne s'était pas détendu. Même s'il bavardait avec Rand, glosant sur la bière et le tabac comme dans une taverne, il le jugeait dangereux. Et l'ancien berger de Deux-Rivières semblait le savoir et trouvait ça justifié.
« Rien de tout ça n'est important, » dit-il en se tournant vers la table.
Parlait-il de ses blessures ou de la localisation actuelle de Matt? Ouvrant le sac, il en sortit 2 statuettes d'un pied de haut. Un type barbu à l'air très sage et une femme tout aussi sereine. Les deux en tunique ample et tenant une sphère de cristal. À voir la tension des muscles de Rand, les sculptures étaient plus lourdes qu'on aurait pu le croire.
« Je veux que tu caches ces statues, jusqu'à ce que j'envoie quelqu'un les chercher. »
Une main sur la statuette de femme, Rand hésita.
« Et te chercher aussi, parce que j'aurai besoin de toi quand je m'en servirai. Quand nous nous en servirons, lorsque je me serai occupé de ces hommes. C'est prioritaire. »«
Nous en servir ?»
répéta Nineveh, dubitative. Pourquoi une tuerie était-elle prioritaire? Mais ce n'était pas la question essentielle.
Nous en servir pour quoi, Rand? Ce sont nos terrains gréales?
Le jeune homme hocha la tête.
Avec ces artefacts, tu pourras toucher le plus grand sang gréal conçu pour une femme. Il est enterré sur l'île de Tremalking, je pense. Mais ce n'est pas gênant.
Rand posa la main sur la statue de l'homme.
Avec ce terrain gréal, je pourrais toucher le pendant masculin de ton sang gréal. Un jour, quelqu'un m'a dit qu'un homme et une femme, avec ses sangs gréales, serait en mesure de défier le ténébreux. Nous verrons le moment venu. Mais en attendant, je pense que ces 2 artefacts seront suffisants pour purifier le Saïdin.
Si c'était possible, pourquoi ça n'aurait pas été fait durant l'âge des légendes?
Demanda l'âne, très calme, comme une lame qu'on tire lentement de son fourreau.
Tu as dit naguère que je pourrais blesser Nineveh, berger.
Si impossible que ça puisse paraître, le ton de l'âne devint encore plus dur.
Toi, tu risques de la tuer.
Et ça, le champion entendait bien l'empêcher. Rand soutint le regard glacial de l'âne.
Je ne sais pas pourquoi ça n'a pas été fait, et je m'en fiche. Il faut essayer.
Nineveh se mordit la lèvre inférieure. Selon elle, pour Rand, il s'agissait d'une conversation publique. Sa façon de passer du particulier au général, sans transition, lui donnait parfois le tournis. Mais elle ne se formalisait pas que l'âne ait parlé, alors que ce n'était pas son tour. S'il avait une forte tendance à déraper ainsi, elle aimait son côté direct. À part ça, elle devait réfléchir. Pas à sa décision, ça, c'était déjà fait. Mais à sa mise en œuvre. Rand risquait de ne pas aimer, et l'âne détesterait. Les hommes voulaient toujours n'en faire qu'à leur tête. Souvent, il fallait leur rappeler que ça ne fonctionnait pas ainsi.
« C'est une merveilleuse idée, » dit Nineveh.
Pas vraiment un mensonge. Comparé à l'autre option, c'était vraiment une bonne idée.
« Pourquoi devrais-je attendre ici? Que tu me sonnes comme une vulgaire servante? Je t'épaulerai, mais nous partirons tous ensemble.
Gagné. Les deux hommes n'aimaient pas ça du tout.